Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
On vient de parler de l'histoire avec Bénédicte de cet homme qui est écope de 7 ans de prison pour avoir tué le chum de son ex-copine. On va vous parler de Josiane, cette jeune femme de 27 ans qui a été assassinée. Sa sœur témoigne parce qu'elle ne veut pas que Josiane ne soit qu'un nombre, un chiffre. Parce que c'est malheureusement ce qu'on retrouve dans bien des situations. Un gars qui accepte pas une rupture, ça devient toxique. Elle continue de cohabiter avec. Sa sœur lui mettait pas de la pression, mais lui disait « Tu peux pas rester avec, vous êtes plus ensemble, ça va mal virer, puis t'as un nouveau chum. » Et finalement, c'est le gars qui est accusé de l'avoir assassiné. Et je vous parlais hier matin, il y avait des chiffres dans Le Devoir, c'est un peu repris dans la presse ce matin, sur le manque de place dans les refuges. Et Québec solidaire a raison là, en disant que sur cette question-là, il faut avoir un processus accéléré pour qu'on ait de la place pour ces femmes, ces enfants qui tentent de fuir. Parce que vous avez ces femmes qui ne veulent pas partir pour toutes sortes de raisons, là, et d'autres qui aimeraient pouvoir partir, mais qui n'ont pas de place où aller. Et quand vous regardez les chiffres donc de Statistique Canada, ce qu'on découvre, c'est que, par exemple, l'an passé, 705 femmes au Canada ont été refusées par les ressources en une seule journée, parce qu'on n'avait pas d'espace. Et c'est pas là une petite transition. Dans bien des cas, c'est plusieurs semaines, c'est plusieurs mois. Donc, elles vont où, ces femmes, quand elles n'ont pas de place dans les refuges? Et je pense que c'est important de le souligner. Elles ont été contraintes de demander à la victime, je parle des maisons d'hébergement, de rappeler le lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, mais c'est sûr que l'augmentation de la demande est réelle. Et je vous le dis, je pense qu'on a collectivement une certaine réflexion à faire sur cette violence qui se manifeste beaucoup à l'endroit des femmes. C'est comme si on assistait à un recul. Je regardais ce matin dans le New York Times espèce de recension des cas d'agression sur la rue. Et principalement, pour ne pas dire presque tout le temps, ce sont des femmes qui sont poussées dans le métro. Ce sont des femmes qui sont frappées dans la rue. Il y a comme une haine qui se déchaîne à l'endroit des femmes. Et c'est pas que dans le propos misogyne, c'est aussi dans des gestes de violence. Donc, on va y revenir ce matin. Parlons maintenant du premier ministre français Gabriel Attal, qui a fait un discours hier à l'Assemblée nationale. Ça faisait 40 ans que c'était pas arrivé. C'est le plus jeune premier ministre de la France. Et c'est un discours assez classique dans les positions françaises. Donc, on a parlé des liens historiques entre la France et le Québec. On a parlé aussi, bien sûr, de la langue, de la protection. Il a insisté sur la laïcité comme étant un élément essentiel pour la protection des valeurs démocratiques. Il disait, entre autres, ceux qui voient la laïcité comme une attaque à la religion, comme une espèce de déni de la pratique religieuse et qu'une forme d'intolérance, c'est tout à fait le contraire. La laïcité, ça s'inscrit dans une démarche fondamentale pour la démocratie. Et il a beaucoup parlé d'environnement et de jeunesse. C'est un jeune premier ministre, je vous le disais. Donc, les rapprochements entre la France, la jeunesse française, venez étudier au Québec, allez étudier en France, on a senti énormément d'importance sur cette question-là. La réalité, cependant, la réalité, c'est que sur le plan des affaires et sur le plan politique, c'est sûr qu'il y a un discours un peu mielleux, mais il y a quand même une lecture réaliste et froide de la réalité. Sur le plan économique, la France profite beaucoup plus que le Québec de l'accord de libre-échange. Et c'est drôle parce que hier, je recevais un courriel je ne veux pas le nommer parce qu'il veut pas, là, d'un propriétaire d'une fromagerie au Québec. Il dit, la compétition des fromages français, on l'a sur le nez. et on n'arrive pas, nous, vraiment à percer le marché français. Et il n'y a pas que le fromage, il y a d'autres produits. Il y a une balance commerciale qui est négative pour le Québec. Et la France n'est pas un partenaire extraordinaire pour le Québec. Peu d'entreprises ont réussi à s'installer en France. Il y en a, là, Boralex, mais beaucoup d'autres se sont heurtés à du protectionnisme. Et j'ai en tête la saga de Couche-Tard qui a voulu pénétrer tout le secteur, donc la vente au détail puis l'alimentation. Et Couche-Tard s'est fait virer de bord. Et c'est pas le seul projet qui est tombé, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui viennent ici et qui réussissent à investir. Et l'autre élément important, la France, à gauche ou à droite, ne laissera jamais s'installer un climat inconfortable avec le gouvernement canadien. Et je sais que M. Saint-Pierre Plamondon, à qui on va parler, a dit hier qu'il y a toujours ce principe de la non-ingérence, non-indifférence. Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'on ne se mêlera pas de votre débat, puis on n'est pas indifférent à ce que vous allez prendre comme décision. Mais je rappelle qu'on est loin, loin d'un référendum, bien sûr. Maintenant, j'apprends ce matin que la vérificatrice générale du Québec va enquêter sur le système, je devrais dire plutôt, elle va enquêter sur le fiasco du système informatique de la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, Mme Guylaine Leclerc confirme qu'un audit est en cours et qu'on aura un rapport quelque part en 2025. Et tout ça pour déterminer qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va avoir la vérité sur les coûts, sur les préparatifs ratés, sur le gâchis? Puis est-ce qu'il y a des responsables de ça? C'est une caractéristique québécoise, là. Quand il y a un naufrage, une catastrophe qui d'ailleurs n'est pas encore réglée, à 100%, qui sont les gens responsables, puis les entreprises derrière ça, puis comment ça se fait qu'on l'a échappé. Ce qui est démontré, là, c'est que ça a coûté jusqu'à maintenant 1,5 milliard à la Société d'assurance auto pour ce qu'on appelle la transition numérique. Alors, on verra le rapport de la vérificatrice. Parlons un peu de santé ce matin. Hier, le dossier des super-infirmières, le ministre Christian Dubé qui était avec nous, ça a été précisé plus tard durant la journée. Donc, essentiellement, l'idée, c'est de permettre à des infirmières spécialisées d'en faire plus, champ de juridiction élargi, sans la supervision d'un médecin. Ça vient pas tout régler, mais c'est une excellente idée. Et il faut dire que Christian Dubé a eu, appelons ça, la délicatesse de souligner le travail avant lui de Gaétan Barrette, et un peu aussi de Daniel Mécan. Mais donc de permettre à ces infirmières de jouer un rôle, d'être parmi les professionnels de la santé en mesure d'offrir des services. Ça a pris du temps, là, mais ça commence à aboutir. Cependant, il reste des fils à attacher. Et je le voyais dans les réactions des médecins, assez discret, disons, sur le côté syndical, pas beaucoup de bruit chez les médecins de famille, mais en privé, c'est autre chose. Plusieurs qui s'inquiètent, qui ont l'impression que souvent l'infirmière va venir cogner à la porte en disant « je sais pas quoi faire, comment on peut gérer ça ». Des infirmières qui me disent qu'elles n'ont pas l'intention de travailler 90 heures par semaine non plus, alors les médecins disent « ben ils prendront pas vraiment plus de patients, 250, peut-être 300 », puis bon. Puis il y a toute la question monétaire, là. Puis je rappelle qu'il y a des négociations avec les deux syndicats de médecins au Québec. Donc, tout ça est très bien. Parce que le discours, là, c'était vrai que les pharmaciens, c'est vrai que les infirmières, oui, on est prêt à partager. Mais je vous donne l'exemple d'un médecin qui me disait ça. On va me ramasser avec les cas plus lourds. La rémunération est pas ajustée. Et ça sera pas, ça peut devenir, avec la paperasse aussi, une question d'enjeu. Alors. Le ministre a dit hier, M. Dubé, je veux pas négocier à la radio, comprends ça. Mais on peut saluer, évidemment, ce projet-là, puis peut-être éventuellement les mini-hôpitaux, quoique c'était parti mal barré, parce que on avait l'impression qu'il savait pas exactement M. Chassin, là, qui est le porteur de ballon dans le dossier, le député Youri Chassin. C'était assez flou, là, tu sais. Vous voulez faire quoi, quel type d'urgence? Alors qu'il y a un beau succès à Québec avec Jeffrey Hale, puis on peut moins s'en servir. Et dans la catégorie, je conclue là-dessus, travaux et des hôpitaux vétustes. Le Journal de Montréal a trouvé des rats à l'hôpital Santa Cabrini. essentiellement des travaux, parce que quand tu brasses la terre, tu déranges l'habitat d'un rat. Alors, des travaux d'excavation qui ont permis à des rats de s'introduire à l'hôpital Santa Cabrini. Des rongeurs qui se sont pointés, évidemment, dans le coin de la cafétéria. Donc, on va parler d'économie, marché immobilier. D'abord, vous le savez, la Banque du Canada qui a maintenu le taux directeur donc à 5 %. Peut-être que ça va baisser, mais pas tout de suite. Certains envisagent l'été, ou en tout cas d'ici la fin de l'année. Et juste résumer le sentiment et l'impact sur le marché. Il y a une forte proportion de gens qui n'ont pas de maison, qui ne sont pas propriétaires, et qui pensent qu'ils ne pourront jamais le devenir avec le prix et la rareté des logements. Sondage qui a été fait. Ce matin, vous avez également une étude qui est menée par Royal Lepage sur le prix des maisons et une évaluation du marché. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que les premiers acheteurs se disent, là, on n'a pas le choix. Là. Il faut trouver une maison parce qu'un logement, c'est de plus en plus cher et de plus en plus rare. La conséquence, c'est que les prix sont à la hausse et qu'on retrouve, dit-on dans la presse de ce matin, l'espèce de retour aux offres multiples pour une propriété. Combien de temps ça va durer, c'est à dire, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de maisons qui s'envolent peut-être plus rapidement. Et tout le monde veut profiter d'un prix en se disant qu'on va avoir encore des hausses pour les prochains mois, probablement. Donc, les gens font des choix. Et Pierre-Yves questionne beaucoup la nouvelle politique de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Là. Et ce que Mme Freeland a dit concernant d'étaler un prêt hypothécaire sur une période de 30 ans. Et une autre catégorie d'acheteurs là, qui est signalée dans cette étude-là, ce sont ceux qui sont déjà propriétaires et qui attendaient la fin de la hausse des taux pour acheter une propriété qui vaut plus cher. Il y en a qui payaient trop, qui ont voulu vendre leur propriété puis d'acheter une moins chère. Et là, c'est cet autre phénomène. Et toujours dans le domaine du logement, le Bloc québécois a dit, regardez, le fédéral n'a pas donné au Québec l'équivalent de son poids démographique en termes de subventions pour le logement abordable. C'est vrai et c'est aussi un peu moins vrai, dans le sens suivant. Pour que l'argent soit dépensé, il faut que le programme donne des résultats. Or, autant à Québec qu'à Ottawa, parce que c'est long, parce que c'est compliqué, ben souvent les sommes prévues ne sont pas dépensées. Je vous dis pas qu'il n'y a pas un déséquilibre. Je vous dis juste, Éric Girard, le ministre des Finances, le répétait souvent, il reste de l'argent sur la table parce qu'on n'arrive pas à faire démarrer les projets, parce que, évidemment, c'est beaucoup trop compliqué. Rapidement, dans les autres nouvelles, Le Devoir qui nous dit qu'il y a encore 45 % des écoles qui n'ont pas de ventilation mécanique. Donc, on peut présumer que ce sont les écoles les plus vétustes ou des enseignants qui disent aux élèves, ben là, il fait froid, mais il faut ouvrir les fenêtres pour s'assurer qu'il y a un minimum de qualité d'air dans les écoles du Québec. Scène internationale, on surveille ce qui se passe, évidemment, à Gaza. Puis ce matin, on va s'attarder du côté du Liban aussi. Fabrice de Pierrebourg sera avec nous. Il a séjourné là-bas. Il a publié un reportage dans l'actualité. Et il y a le Hamas contre Israël, mais il y a le Hezbollah aussi. En arrière de ça, vous avez l'Iran. Et plusieurs experts se demandent à quel moment cette guerre au Proche-Orient va pas atteindre un autre niveau et donc devenir un conflit régional. On va vous en parler. Également, O.J. Simpson annonce du décès hier, 76 ans. Je vais en reparler tantôt avec un collègue de l'époque, Serge Amiot, qui a couvert le football, passionné de football américain. Je travaillais avec lui quand ce procès-là est arrivé. Et au-delà d'un procès pour meurtre, c'est toute l'histoire du racisme aux États-Unis. Une star, O.J. Simpson, star de football, star de cinéma, film, évidemment, on s'entend, là, de divertissement, de la pub, et qui se retrouve séparé, n'accepte pas la rupture, et sa femme est retrouvée morte, pratiquement décapitée. Elle était avec un jeune homme qui était venu lui porter ses lunettes, qui lui aussi a été tué. Et au terme d'un procès, il a été acquitté. Il a été condamné au civil à payer 33 millions. Ce qu'il n'a pas fait, il s'est poussé en Floride pour échapper aux créanciers qui étaient les parents, évidemment, de Nicole, son ex-conjointe, et du jeune Goldman. Quand je dis ça montre l'ampleur du racisme, des policiers qui ont fait un travail bâclé, le fameux policiers avec les gants. Quand on a découvert qu'il y avait un gant, puis qu'on a demandé à O.J. Simpson de l'essayer, puis c'était un gant qui était déjà humide, puis il y avait une espèce de gant de plastique, c'est sûr que ça marchait pas. Et là, Cochrane, avec sa fameuse phrase, « If it don't fit, you must quit », donc ça a porté fruit. Mais je vous le dis, tout ça est assez extraordinaire, puis cette fameuse chasse dans le Bronco, alors qu'il y avait une arme, menaçait de se suicider, il revenait des funérailles de sa femme, il n'était pas encore accusé, il était pour être accusé, il s'est poussé. C'est le début de ce genre de méga spectacle à la télévision. Puis il est mort à 76 ans des suites d'un cancer. Une vie assez lamentable après. Il a fait de la prison, il est ressorti en 2017. Donc on va vous en reparler ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On le sait, une autre femme a été assassinée cette semaine. On a compris assez rapidement que c'est encore une fois un événement relié à de la violence conjugale. Au même moment, on a des statistiques qui nous arrivent pour démontrer que les refuges manquent de place, que des femmes se voient refuser l'accès. Déjà que c'est difficile pour des femmes de quitter avec les enfants pour échapper à un climat toxique et potentiellement violent. Bénédicte est avec nous. On va revenir sur le décès de Josiane Fauché. Ça s'est produit, on le dit, alors que c'était dans une procédure de séparation. Tu as parlé avec la sœur de Josiane, parce que, évidemment, c'est pas un chiffre, c'est pas une donnée, là. C'est un être humain qui est disparu.
Et c'est ça qui est important pour Julia Fauché. C'est pour ça qu'elle accepte de parler, même si c'est difficile pour elle, parce qu'elle ne veut pas que sa sœur Josiane, ça soit seulement une statistique qui fait partie de toutes ces femmes, on sait, qui ont perdu la vie dans un contexte conjugal, particulièrement depuis le début de l'année, là. Et pour elle, c'est encore dur à croire que sa sœur, la cadette d'une famille de 6, qu'elle a été assassinée. Toute la famille est bouleversée, évidemment, on le comprend. Josiane, 27 ans, elle aurait été poignardée à mort chez elle, dans son appartement, par son ex-conjoint qui, semble-t-il, acceptait mal la rupture. Il s'appelle David Tota, il a 38 ans. Il est présentement accusé de meurtre au deuxième degré de Josiane. On peut écouter Julia.
Il m'a volé ma petite sœur. Il nous l'a volé. Il a volé le bébé de la famille. Il pouvait pas l'avoir, j'imagine. Donc, il a décidé de nous l'enlever. Ah, c'est tellement dur à accepter. Honnêtement, je souhaite vraiment pas ça à personne. C'est comme le pire cauchemar. T'sais, des fois, je me réveille puis j'espère qu'elle va être là puis qu'elle va être correcte. Puis elle est plus là.
Il y a tellement d'incompréhension, d'impuissance aussi pour les membres de la famille. Et ce qu'elle m'expliquait, Julia, c'est que David Tota avait déjà été violent avec Josiane. Elle s'était confiée à sa sœur là-dessus. Il y aurait eu beaucoup de violence verbale, entre autres. Et là, la relation se serait détériorée au fil du temps. Josiane, on me disait qu'elle était de plus en plus isolée, voyait beaucoup moins certaines personnes de qui elle était très proche avant. Depuis au moins un an, là, elle s'était isolée. C'est le genre de choses qu'on voit souvent dans des cas de violence conjugale. Julia sentait que son conjoint de l'époque était vraiment très contrôlant avec elle. Et à un certain moment donné, Josiane a décidé de faire le choix de le quitter.
Mi-janvier, elle nous a annoncé que c'était fini la relation. Tu sais, ça marchait plus. Puis là, il y a certains faits qui sont sortis d'abus physiques qui auraient été commis par le passé. Qui aurait fendu la lèvre, frappé, menacé. Toutes des affaires que t'espères jamais entendre ta petite sœur te dire, dans le fond.
Josiane a continué à habiter dans le même appartement que son ex-conjoint, mais elle essayait de l'éviter le plus possible. Elle avait même commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Elle essayait vraiment de passer à autre chose. Elle voulait aller de l'avant, elle était partie en voyage, mais ce que m'expliquait sa sœur, c'est que son ex aurait continué de la bombarder de messages, ne la laissait pas du tout tranquille.
Je l'ai vue le 2 avril. Elle est venue à la maison parce qu'elle était partie en voyage aux États-Unis avec sa nouvelle flamme. Sa nouvelle fréquentation. Elle devait nous le présenter justement bientôt. Puis, tu sais, elle avait de l'air bien, elle avait de l'air rayonnante, mais tu sais, là, c'est là qu'elle en a révélé plus, comme quoi un petit peu plus d'instances de violence physique qui s'est à passer. Puis encore une fois, j'ai dit, il faut que tu sortes de là vite parce que c'est pas long que ce type de choses-là viennent dangereuses.
Et malheureusement, on le sait, c'est devenu fatal pour Josiane. Sa sœur me dit que sa famille est intervenue quand même auprès d'elle pour essayer de l'inciter à sortir de la relation toxique, de prendre ses distances avec cet homme-là avec qui elle avait rompu finalement, mais elle a quand même gardé des liens. On voulait l'aider, lui dire d'aller porter plainte. Mais ce que Julia m'expliquait, c'est que sa sœur pensait qu'elle était assez forte par elle-même pour pouvoir réussir à composer avec son ex.
À maintes et maintes reprises, j'ai essayé vraiment de lui faire valoir comme, hey, OK, tu peux revenir à la maison là, n'importe quand, là, je suis sûre que les parents, ça ne leur dérangerait pas juste de comme taquer pendant un bout de temps. Là. Ça ne l'intéressait pas. Après ça, je sais comme, t'as personne avec qui tu peux aller vivre. Ça non plus, ça ne l'intéressait pas parce que Josiane, c'était une femme que, tu sais, était capable de faire les choses par soi-même, fait qu'elle les faisait par soi-même. J'imagine qu'elle était convaincue qu'elle pouvait dealer avec.
Et on le sait, tu le disais, il existe des ressources pour les femmes victimes de violences conjugales. Tu vas y revenir tantôt, mais d'abord, elle déborde, c'est complexe. Et c'est difficile aussi pour plusieurs femmes de faire le premier pas pour demander de l'aide, de décider de quitter et d'aller chercher des ressources. Et la sœur de Josiane me dit qu'elle espère justement que l'histoire de sa sœur va pouvoir convaincre des femmes qui sont dans une situation de violence conjugale de porter plainte ou d'en parler avec des personnes qui sont impliquées dans certains organismes, dans des ressources. Andy, Josiane, elle était toujours là pour aider les autres, mais quand c'était le temps de s'aider elle-même, de prendre les mesures pour que ça puisse aller mieux pour elle, c'est là que c'était un petit peu plus difficile.
Alors, Josiane, c'était tellement une belle âme. Tu pouvais tout dire, puis elle t'écoutait, puis elle s'assurait que t'étais correct, puis que tout allait bien dans ta vie. T'es personne mérite ça. Mais ma soeur, elle avait la vie devant elle. 27 ans, c'est pas un âge pour... c'est pas assez vieux.
C'est bouleversant de l'entendre, sa sœur.
Là, j'imagine qu'il y a plein de femmes qui vont se reconnaître là, dans ce parcours, dans ce contexte de vie, puis les hésitations à quitter, à rester, à quitter pour aller où. C'est pour ça que c'est important d'entendre quelqu'un témoigner et nous dire qui était Josiane Fauché.
Et que ce sont des situations qui tu sais, quand elle dit que sa sœur était capable, selon elle, de composer avec ça, par elle-même, c'est aussi une croyance pour beaucoup de femmes qui vont des fois banaliser ce qu'elles vivent. Et des fois, ce sont des petits gestes qui vont s'accumuler avant que ça vire à un événement aussi dramatique. On l'a vu dans les dernières semaines, mois, là, quand il y a des féminicides qui se produisent comme ça, il y a souvent une trame narrative. Là, si j'ai demandé à Julia comment elle voit ça pour la suite, puisqu'on sait que David Tota fait face à une accusation de meurtre au deuxième degré. Il va revenir en cours d'ailleurs aujourd'hui. Ce qu'elle m'a dit, c'est que ça va être super difficile pour elle et pour sa famille de suivre les procédures judiciaires, mais elle sent qu'elle doit le faire pour sa sœur, pour s'assurer que tout se passe bien, que s'assurer aussi que justice va être rendue.
C'est sûr que dans mon cœur à moi, j'espère qu'il va avoir la peine maximale. Ben honnêtement, qu'il reste en dedans et qu'il ressort pas parce que c'est juste, ça se fait pas des affaires de même.
Le meurtre de Josiane s'ajoute à plusieurs féminicides depuis le début de l'année, il faut le dire. Le rythme auquel les femmes sont assassinées dans un contexte conjugal, ça fait quand même peur. On en parle presque à chaque
semaine.
On dirait qu'on retourne en 2021. On se rappelle que cette année-là, il y avait eu beaucoup, beaucoup de féminicides. On est au mois d'avril depuis le début de l'année. On l'a dit, 9 femmes qui ont été assassinées, dont 6 dans un contexte conjugal. C'est beaucoup. Et c'est pour ça aussi, on le disait d'entrée de jeu, que Julia veut parler. Elle veut pas que la mort de sa sœur se résume juste au fait qu'on ajoute le nom de sa sœur à la liste.
C'est sûr qu'il y a un problème à quelque part. C'est pas normal qu'il y ait autant de féminicides. Pourquoi je parlais si je voulais pas que Josiane reste un nombre? Faut que le monde se rappelle que, oui, c'est peut-être la 9e, mais, tu sais, il y a une histoire derrière chaque personne. Josiane Fauché, c'était la dernière de la famille Fauché, puis elle travaillait dans une banque, puis elle avait un super beau futur en avant d'elle, puis elle avait tellement, tellement de monde qui l'aimait.
C'est difficile de trouver les mots pour réconforter toute la famille. Il essaie de serrer les coudes. Ce qui est important aussi de souligner là-dedans, je t'en ai parlé au début de la semaine, David Tota avait déjà fait face à des accusations par le passé. En 2016, il avait été accusé de voies de fait dans un contexte de violence conjugale. Faut le dire, il avait été acquitté, mais il s'était quand même engagé à pas troubler la paix dans ce qu'on appelle un 810. Et quand on regarde dans les féminicides, les facteurs, la présence d'antécédents de violence conjugale dans la relation, la séparation, qui sont souvent des facteurs qui augmenteraient le plus le risque d'homicide conjugal. Et tu as dit quelque chose tantôt dans ta revue de presse qui m'a accroché. Comment plusieurs hommes ne vont pas bien? Comment c'est difficile?
Il y avait une étude dans le New York Times, pas sur la violence conjugale comme telle, mais sur les agressions dont les femmes sont victimes, ouais, notamment sur la rue à New York. Et des gens, par exemple, dans le métro, des gens qui se font pousser, des gens qui reçoivent un coup de poing, on se demande pourquoi. Bon, il y a des problèmes de santé mentale. Mais ce sont la plupart du temps des femmes qui sont victimes de ces agressions-là. Pas tout le temps, là, mais il y en a beaucoup. C'est une haine ou une cible facile. Je ne sais pas comment l'expliquer. Là, je ne suis pas un expert, mais je fais le constat comme tout le monde un peu.
Et dans un contexte de violence conjugale, d'un contexte de séparation, clairement, c'est difficile pour plusieurs hommes. C'est là que ça dégénère. Et moi, j'en parle au quotidien de des cas comme ça. Et souvent, ce sont les cas les plus graves dont on parle, là où ça s'est mal terminé. Mais je suis au palais de justice pratiquement tous les jours et le nombre de cas en lien avec des hommes qui commettent des crimes dans un contexte de violence conjugale, que ce soit des interdits de contact qu'ils respectent pas, qui commettent des crimes violents, qui menacent, qui manipulent, c'est épeurant, je te dirais, de voir.
On racontait plus tôt l'histoire de ce gars qui a écopé de 7 ans de prison, qui a poignardé le nouveau copain de son ex. Il venait chercher le chien, là, tu racontais ça, puis ouais, la chicane a éclaté, il est 5 heures du matin, puis on sort un couteau, puis on donne un coup de couteau, puis le gars est décédé.
Un homme jaloux qui acceptait pas la séparation après un an. Donc, disons que ça nous pousse à réfléchir quand il y a des choses comme ça qui se passent.
Merci beaucoup, Bénédicte.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Ah ben depuis hier, on voit les statistiques de Statistique Canada justement concernant les débordements dans les refuges pour femmes victimes de violences conjugales. Autrement dit, clairement, on manque de place et ça veut dire que des femmes qui ont des besoins, qui sont en difficulté, voire en détresse, se font refuser. On va essayer d'avoir un portrait plus juste, encore plus précis, avec Louise Oriendo, qui est co-responsable des dossiers politiques pour le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Oriendo, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Parlez-moi de la réalité au Québec, du nombre de femmes qui, malheureusement, se font refuser faute de place. On parle de combien de personnes? C'est souvent, c'est régulier ou c'est occasionnel?
Ben écoutez, nos collègues de SOS Violence Conjugale nous disent depuis plusieurs mois qu'elles refusent une femme sur deux. Parfois, ça peut être jusqu'à 17 femmes par jour parce qu'il n'y a pas de place dans les maisons au moment où elles en cherchent pour ces femmes-là.
Et qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là? Quand une fois qu'on dit on peut pas vous abriter, on peut pas vous protéger, quelle est la suite?
Ben, en fait, il y a deux suites. Si les femmes acceptent de parler à une intervenante en maison, elles vont évaluer avec elles la situation. Et si on est face à une situation de danger important, on va chercher une solution immédiatement. Parfois, on va ajouter des lits dans une maison. D'autres fois, on va proposer à la femme d'aller un peu plus loin. Mais c'est pas toujours possible quand on a un travail, quand on a des enfants, se déplacer à 100-200 kilomètres de son lieu de résidence, c'est pas toujours simple. Sinon, on va dire aux femmes, ben écoutez, rappelez-nous, rappelez plus tard, rappelez demain, peut-être qu'il y aura de la place et qu'on pourra à ce moment-là vous aider. L'autre chose qu'on tente de faire, c'est aussi d'accompagner les femmes sans hébergement. Mais là aussi, on manque de personnel pour vraiment répondre à toute la demande parce qu'on se dit, ben si au moins on peut regarder avec la femme comment assurer sa sécurité, comment préparer son départ pour que ça soit pas dangereux. On sait que c'est les moments les plus risqués. C'est des choses qu'on peut faire avec les femmes, mais c'est pas la bonne solution. Je pense que chaque fois qu'une femme appelle à l'aide, il faudrait être capable de lui apporter la réponse qu'elle souhaite.
Une femme qui se retrouve en hébergement va rester là combien de temps en moyenne?
Ben, en moyenne, on parle de à peu près une trentaine de jours. Nous, on a vu que la durée de séjour s'est beaucoup allongée dans les dernières années parce que les femmes ont, la même si elles ont terminé leur démarche, si on a assuré leur sécurité, le plus grand défi va être de trouver un logement abordable et sécuritaire. On vivait ce problème-là dans les grands centres par le passé. Maintenant, on vit partout à travers le Québec. Nos maisons du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nos maisons de Chaudière-Appalaches nous en parlent. Donc, il y a des femmes qui occupent des places dans des maisons alors qu'elles seraient prêtes à partir, mais qui trouvent pas de logement. Donc, c'est vraiment une clé aussi à ce problème-là de rendre disponible plus de logements sociaux.
Là, je fais appel à votre mémoire puis à votre expérience, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent, qui me disent de vivre la violence conjugale à l'intérieur d'un logement, d'une maison avec un conjoint, c'est une chose. Mais de le vivre avec un ex-conjoint qui est peut-être à l'extérieur, mais qui est toujours menaçant, il y a beaucoup de femmes qui se sentent, même si le gars est sorti de leur vie officiellement, toujours menacées, qui se sentent pas bien dans leur peau.
Ben absolument, parce que la violence n'arrête pas avec la séparation. Malheureusement, le propre des conjoints contrôlants, c'est de vouloir garder le contrôle sur leur partenaire et sur leur ex-partenaire. Et on voit beaucoup d'ex-conjoints qui vont continuer de harceler la femme, qui vont profiter des droits d'accès aux enfants pour la menacer, pour continuer à la dénigrer. Et malheureusement, les tribunaux en tiennent pas toujours compte. Les tribunaux de la famille ont souvent l'impression que la relation est finie, le problème est réglé, il n'y a pas de conséquences ni pour la femme ni pour les enfants, alors qu'au contraire, c'est des moments, en tout cas particulièrement autour de la rupture, mais parfois pendant de longues années, c'est des moments où la violence va continuer. On parle maintenant de la violence post-séparation et c'est une réalité qu'on connaît depuis longtemps, mais qui est plus nommée maintenant.
Si je reviens à la problématique du logement, donc d'avoir des places d'hébergement puis ultimement des places pour que ces femmes-là puissent s'établir en sécurité, là, il y a Québec solidaire qui propose d'y aller avec une voie rapide. Là, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver de l'espace le plus rapidement possible sans se compliquer la vie là, pour que des femmes soient mieux protégées?
Ben, il faut effectivement qu'il y ait une volonté politique pour que on facilite toutes les démarches pour ouvrir des maisons d'hébergement. C'est long, ouvrir une maison d'hébergement. Il faut avoir un conseil d'administration. Il faut embaucher les employés. Mais il faut que, pour que ça se fasse plus rapidement, il faut avoir des conditions facilitantes. Il faut que l'argent arrive au bon moment, pas à la fin des travaux, pas plusieurs années plus tard. Le ministère de la Santé avait fait un pas en permettant à des projets de maison de commencer à fonctionner, à créer des équipes dans des logements temporaires en attendant qu'elles aient leur bâtisse. C'est certaines de ces maisons-là qui ont été prises dans tout le problème avec la Société d'habitation du Québec où on compliquait la vie pour des bâtisses. Donc, il faut se concerter puis se coordonner. Si on dit que c'est une priorité avoir des maisons, ben il faut que l'argent pour les services qui viennent de la santé et des services sociaux soit au rendez-vous, de même que l'argent de la Société d'habitation du Québec et qu'on n'ait pas de tracasserie administrative. Il faut faire une voie rapide, effectivement.
Bon, c'est sûr que les gens vont avoir en tête là, le fameux chiffre là, du 800 000, 900 000 par chambre, par exemple, mais ce montant-là, d'abord, il s'explique par, appelons ça, les complications là, dans les critères de la société qui s'occupe des logements, la Société d'habitation du Québec, ouais. Parce qu'il est possible de construire à un moindre coût et rapidement des places.
Ben, c'est possible, effectivement, mais il faut que la société accepte de déroger à certaines de ces normes. Et il faut tenir compte aussi qu'une maison d'hébergement, là, c'est pas un bloc à logement.
Non.
Il faut qu'on ait des mécanismes de sécurité. Il faut qu'on ait de l'espace pour de l'intervention. Il faut que ça soit assez grand pour que des femmes en chaise roulante puissent y circuler comme les autres. Donc, il y a des conditions particulières dont il faut tenir compte. Et il faut aussi s'assurer que l'ensemble de l'argent est au rendez-vous, que les maisons sont pas obligées de faire des soupers spaghetti. Écoutez, on paye pas des hypothèques d'un million avec un souper spaghetti. Puis une hypothèque d'un million sur 35 ans, ça coûte beaucoup plus cher que si on le paye la première année.
Merci, Mme Oriendo. Bonne chance à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Louise Oriendo, co-responsable des dossiers politiques pour le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Parlons de Montréal. On sait que la ville prépare un plan de déneigement. J'ai reçu l'opposition, j'ai reçu les gens de la ville, et évidemment, ils n'ont pas la même vision. Puis on essaie de comprendre exactement c'est quoi l'impact. La question est relativement simple. Est-ce que l'hiver prochain, la ville va être plus efficace? Est-ce que le déménagement va se faire sur une plus longue ou une moins longue période de temps? Notre invité ce matin, c'est Jean-François Parenteau. C'est l'ancien maire de Verdun. Il a été membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. Il a été élu avec Denis Coderre. Il a travaillé avec Valérie Plante. Donc, il est avec nous ce matin. Monsieur Parenteau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Parlez-moi là de façon claire et précise de la stratégie à venir de la Ville pour le déneigement. La Ville me dit que ça va être meilleur. L'opposition me dit que ça va être moins bon. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus?
Bien, en fait, quand j'ai lu les documents qui ont été présentés, entre autres le facteur décisionnel, pour moi, c'est clair qu'on a un recul au niveau des services. On a une coupure. Ça, c'est clair pour moi. C'est qu'on va passer, mettons, une tempête qui prenait 3-4 jours à faire, un chargement à faire en 3-4 jours. L'année prochaine, ça va être 4 à 5 jours pour le même chargement.
Pourquoi ça va être plus long?
Parce qu'on a coupé dans les parcours. C'est que, mettons, un arrondissement, il y avait 6 parcours. Il va en avoir 5. Ça veut dire qu'on va rallonger le parcours des groupes, le nombre de kilomètres. Alors, ça veut dire que, mettons quelqu'un qui prenait, mettons, la cinquième journée, là, c'est lui qui avait la cinquième journée, mais là, ça va être 6 jours à son tour. Fait que, vu qu'on rallonge les parcours, on coupe dans le nombre de camions, le nombre d'employés sur le terrain.
Et pourquoi on coupe?
Soit qu'on a, parce que je prenais dans le secret des dieux, mais je verrais ça soit d'une part pour le manque de main-d'œuvre, le manque de camions, ça pourrait être ça, mais aussi, c'est je vois pas d'économie, parce que on dit là-dedans, en 2027, on va avoir 15 millions d'économies. C'est plus ou moins une tempête. C'est un hiver, là, c'est environ une tempête, ça. C'est que je comprends pas l'objectif. On retourne en arrière. Si vous vous souvenez, maintenant, on disait, c'est pas l'arrondissement, c'est la descente, là, c'est pas nous, c'est l'arrondissement. On va revenir exactement là.
OK, c'est là que je veux vous entendre, parce que moi, j'ai cette perception-là là, que quand il va y avoir un problème, c'est qu'on va se passer la rondelle entre la ville, l'hôtel de ville, la ville-centre, là, et les arrondissements. Ouais.
Bien, c'est certain, parce que on avait mis en place à l'époque, avec concertation de tous les arrondissements, on avait tout le monde ensemble, autant l'administratif que le politique, et on avait statué qu'on voulait avoir deux chargements optionnels parce qu'il y a une différence de degré, mettons, entre le nord et le sud de la ville. Puis des fois, on faisait un chargement au nord, mais on en faisait pas au sud, par exemple. Là, on a passé de 2 à 1, et qui plus est, c'est qu'on va demander, on va facturer le transport du déneigement à l'arrondissement. L'arrondissement n'a pas d'argent. Elle est déjà assez, saignée là, au niveau des coupures. Elle ne pourra pas, ça va être quasiment 50, 75 000 par chargement, ça n'a pas de sens.
OK, M. Parenteau, on va vous poser une question très simple. Là. Et je la pose à répétition, mais il n'y a personne qui me donne la réponse. Là. La question est la suivante. Quand il y a un arrondissement où, puis là, je comprends qu'il peut y avoir un certain nombre de différences, là, mais je me promène dans l'arrondissement X, les trottoirs sont impeccables. Je change de quartier, d'arrondissement, c'est un cauchemar. C'est de la faute de qui?
C'est la différence entre ce qu'on appelle le travail qui est fait en vigie par l'École bleue et le travail qui est fait à contrat. Moi, je préconise l'exemple à Verdun, c'est tout fait en vigie. Tout est fait par l'École bleue. Tandis que les contrats, les gens ne sont pas habitués. D'année en année, l'École bleue est habituée à tenir le territoire. L'autre qui a le contrat cette année, il l'a, mais il ne l'aura pas nécessairement l'année prochaine, il va dans un autre arrondissement. Il doit réapprendre le parcours.
C'est bien compliqué. C'est bien compliqué.
Oui, on pourrait faire plus simple, mais on aime ça compliqué des fois.
Oui, mais vous avez fait partie des comités exécutifs de M. Coderre et de Mme.
Ben, exactement. On avait fait des changements, puis là, je comprends pas pourquoi on fait un pas en arrière. Puis, je vois pas d'économie en réalité. T'sais, pour 10-15 millions, oui, c'est un gros montant, mais sur un budget, mettons, 185 millions, 200 millions par année, c'est à peine 5%, 4-5%.
Je vais vous poser une question parce qu'on a échangé souvent, vous et moi, sur ces dossiers-là.
Un petit peu,
oui. Un petit peu, oui. Vous avez acheté les fameux croque-glace. Il paraît que ça sert à rien.
Bien, encore là, ça dépend. Ah, c'est en passant, je vous avais promis de faire un tour de croque-glace, j'avais oublié.
Oui, mais moi, depuis ce temps, je travaille avec mon ami Luc Ferrandez qui m'a dit j'en avais sur le plateau, puis on ne pouvait jamais les utiliser, c'était trop compliqué, il y avait trop de glace, pas assez de glace. Bref,
il y a eu beaucoup de résistance. Il y a eu beaucoup de résistance sur le croque-glace, mais une efficacité, mais dans un contexte particulier, entre autres quand il y a de la glace. Puis l'enjeu maintenant, c'est pas la neige l'hiver, c'est vraiment la glace sur les trottoirs. Mais ça, c'était un autre enjeu que je pourrais vous expliquer après, parce que il y a un problème de communication entre les directions. Puis ça, je pourrais vous expliquer en long et en large après.
OK, mais là, vous allez m'expliquer ça maintenant. Parce que les trottoirs, vous avez raison, là, les variations de température, puis là, il pleut, il neige, ça gèle pas. Puis ils n'ont pas l'air à comprendre à la ville que le monde peut se péter à la gueule, ces trottoirs.
Mais c'est pas juste ça, c'est qu'un trottoir, il est fait en angle pour égoutter vers la rue. Mais si on laisse une bordée de neige sur le bord du trottoir ou dans la chaîne de trottoir en bas, puis on bouche les égouts, ça donne rien. Le concept d'été, il se maintient pas en hiver. Il faudrait nettoyer mieux que ça, coller la chaîne.
Vous savez ça.
Dans le fond, c'est plus dans l'exécution, la problématique. Il faudrait avoir une exécution encore plus précise.
On est-tu capable ou on n'est pas capable?
Je suis sûr qu'on est capable.
Pourquoi est-ce qu'on le fait pas?
Ah, ben ça, c'est une question mystère.
Peut-être que ça les dérange pas. Je vais vous dire une affaire effrayante. Là, vous allez me pardonner, mais on se connaît depuis assez longtemps, là. Moi, j'ai l'impression qu'ils se disent, les trottoirs, on s'en fout. Les vieux marchent, en autant que ma piste cyclable est bien déneigée puis que ma clientèle électorale est contente.
Oui, puis non, je vous dirais honnêtement. Mais vous n'êtes pas loin parce que les coûts relatifs à l'augmentation des coûts, c'est l'aménagement du territoire qui augmente les coûts, selon moi. Et non pas la pénurie de main-d'œuvre nécessairement ou des choses comme ça.
OK. En résumé.
L'urbanisme.
Oui.
Oui, allez-y.
Non, allez-y.
Ben en fait, on fait des nouveaux concepts, c'est très bien, mais on parle pas aux équipes, mettons, de la concertation pour le déneigement. Exemple, on va déminéraliser un contre-trottoir, on met de la verdure l'été, c'est parfait. Mais l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? On déneige pas. Parce que c'est une opération qui se fait aux 3-4 tempêtes. Là, c'est certain qu'on va avoir un trottoir glacé. L'eau, elle peut pas s'égoutter.
OK. En résumé, M. Parenteau, ce que vous me dites, c'est que le plan de la ville va faire en sorte que les opérations de déneigement vont prendre plus de temps que ce qu'on a connu, même si cet hiver, ça a été assez tranquille de ce côté-là. Puis en même temps, on pourrait faire nettement mieux pour rendre les trottoirs sécuritaires, mais on le fait pas pour l'instant.
Présentement, non. Okay. Puis on va avoir une plus grande différence d'un arrondissement à l'autre, ça, je suis certain.
Merci d'avoir été avec nous.
Au plaisir, M. Au
revoir. Bonne journée. Jean-François Parenteau, ancien maire de Verdun, 2013 à 2021, ex-membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Il y a bien sûr la guerre entre Israël et le Hamas. Encore une fois, malgré les grandes promesses d'Israël, on se rend compte que l'aide alimentaire sur le terrain demeure déficiente. C'est toujours très complexe. Et même des experts ce matin qui disent qu'on passe d'une période où les gens ont faim à de la malnutrition et carrément ça menace qui? Ben des femmes, des enfants, les gens qui sont les plus vulnérables. Mais il faut regarder également ce qui se passe au nord entre Israël et le Hezbollah. Notre collègue Fabrice de Pierrebourg a passé une semaine au Liban au mois de février. Fabrice, bonjour.
Bonjour Paul.
Raconte-nous d'abord, t'es allé te promener où au Liban exactement?
Je suis allé à Beyrouth et j'ai passé après l'essentiel de mon temps au sud Liban, donc région frontalière avec Israël, qui depuis le 8 octobre, le lendemain donc de l'attaque du Hamas en Israël, est devenue aussi une zone de conflit. Une zone de conflit qui est plus, on va dire, maîtrisée, c'est-à-dire que tous les jours depuis le 8 octobre, Israël et le Hezbollah, qui est un mouvement chiite libanais, on va dire, pro-iranien, s'échangent des tirs d'artillerie, de missiles. Tous les jours, Israël fait des frappes ciblées au sud Liban, dans les villages, pour éliminer des combattants du Hezbollah. C'est un conflit qui, pour l'instant, a fait près de 300 morts, essentiellement donc des combattants du Hezbollah et quelques civils libanais. Et c'est une situation qui est très dangereuse depuis ce moment-là, parce qu'il faut savoir que autant au nord d'Israël, toute une bande à peu près de 10 à 20 kilomètres a été évacuée, comme le long de Gaza. Donc il y a à peu près 80 000 Israéliens qui ne peuvent plus retourner chez eux au nord du pays. Et on a la même situation au sud du Liban. À peu près autant de Libanais ont été évacués vers la côte et vers Beyrouth. Et tout le monde pense qu'un jour ou l'autre, cette situation peut dégénérer encore plus depuis l'attaque d'Israël par drone à Damas, la capitale syrienne, au début du mois d'avril, où ils ont éliminé plusieurs hauts gradés militaires iraniens. Et on sait, tous les jours, Téhéran menace de riposter en Israël. Et tout le monde se demande, est-ce que par hasard, ce ne sera pas le Hezbollah qui va faire ce travail-là, puisqu'il fait partie de ce qu'on appelle l'axe de la résistance là-bas, qui sont le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, la Syrie, des milices chiites en Iran, et les outils du Yémen. Tous ces groupes-là, qui ont des statuts différents dans ces pays-là, finalement, marchent derrière l'Iran et peuvent intervenir à tout moment. On dit que ce sont les bras armés de l'Iran, finalement, dans la région, quoi.
Dans un autre voyage, tu as visité Gaza, tu t'es rendu sur le territoire, tu as côtoyé des gens du Hamas. C'est quoi la différence entre le Hamas et le Hezbollah en termes de force de frappe, en termes d'effectifs puis de philosophie?
Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le Hamas, on voit que c'est un conflit extrêmement dur, meurtrier, les chiffres, on les a, c'est une catastrophe. Mais le Hamas, c'est rien par rapport au Hezbollah. Et même en 2010, un ancien secrétaire d'État américain à la Défense, je pense que c'était Robert Gates, avait dit que le Hezbollah a un armement et des capacités militaires supérieures à beaucoup d'armées au monde. C'est-à-dire qu'autant le Hamas, lui, c'est sûr qu'il dirigeait la bande de Gaza, il avait un stock de roquettes, on a vu, de mortiers, etc., mais ça restait très artisanal, je dirais, entre guillemets. Le Hezbollah, on est dans une autre catégorie si Israël décide de l'affronter, comme ils l'ont fait en 2006, et d'ailleurs, ils se sont retirés du Liban en 2006 après un mois de combat face au Hezbollah. Ça a été très difficile pour Israël. Le Hezbollah est armé directement par l'Iran, entre autres, la Russie, la Syrie. Donc, il y a du matériel, genre des missiles de longue portée. On sait qu'ils ont des missiles. On dit qu'ils ont près de 100 000 missiles en leur possession, dont certains qui peuvent atteindre 300 km guidés par GPS. Ils ont environ près de 50 000 combattants réguliers de réserve entraînés, à peu près autant que l'armée libanaise, juste pour comparer. Donc Israël se retrouvera. Et puis aussi, ils sont très impliqués dans la vie politique libanaise. Le Liban est une démocratie. Le Hezbollah a une branche armée, mais là aussi une branche politique qui participe à la vie du Liban, qui a des ministres au gouvernement libanais, qui a des députés au Parlement. Donc c'est très compliqué, quoi. Pour Israël, là, il y a des scénarios catastrophes qui sont sortis il y a plusieurs mois par des groupes de recherche militaire qui disaient que les premiers jours d'un conflit direct entre Israël et le Hezbollah, ça signifierait presque 2000 à 3000 roquettes et missiles tirés sur tout le territoire israélien, sur Tel Aviv, sur des centrales hydroélectriques, etc., etc. Et d'ailleurs, depuis 2-3 jours, Israël a commencé à brouiller tous les systèmes GPS autour de Tel Aviv. C'est-à-dire que les GPS ne marchent plus. Et même, il y a des gens qui se sont rendus compte que quand ils se mettaient sur le GPS, ça les envoyait à Beyrouth parce qu'on veut essayer de contourner le système de tir des missiles ou iraniens ou du Hezbollah. Donc, pour Israël, ça serait vraiment se battre dans une autre catégorie que le Hamas. Puis en plus, le terrain est différent. Gaza, c'est petit, hein. C'est que c'est la moitié de Montréal, c'est très plat. Le sud Liban, c'est des montagnes. On est dans un environnement très hostile et très difficile pour une armée qui vient envahir ce territoire-là.
À ce moment-là, quand tu mets tous ces éléments-là ensemble, est-ce que la possibilité d'un conflit régional soit plus réelle que jamais, que le Proche-Orient s'enflamme beaucoup plus que cette confrontation sur le territoire de Gaza?
Oui, bien sûr. Et puis c'est pour ça, je vois encore aujourd'hui, il y a un émissaire américain qui s'en va en Israël.
Un général, là.
Un général. Il y a des pressions qui sont faites même directement sur l'Iran. Tout le monde a peur que ça dégénère parce que, à cause de ça, je veux dire, c'est que, et puis on sait qu'Israël en ce moment est quand même dans une attitude, on va dire pour le moins jusqu'au boutiste, nihiliste à Gaza, c'est-à-dire que rien ne les arrête. Ils reçoivent quand même toujours de l'armement occidental. Donc c'est sûr. Et puis en face, on a l'Iran qui malgré tout a bien compris qu'il faut qu'il fasse attention parce que les Américains depuis le début depuis le mois d'octobre ont déplacé beaucoup de forces, des porte-avions, des forces aéronavales, etc. dans la région. Il y a la possibilité de l'arme nucléaire. Donc l'Iran fait attention, mais en même temps, il peut pas laisser impuni. Il se retrouve mal pris. L'attaque de Damas, c'est-à-dire qu'est, je pense, une des plus meurtrières. On a visé un établissement, un consulat iranien, donc un lieu diplomatique. On a éliminé des hauts gradés de l'armée iranienne. Ça va être difficile de ne pas réagir. Comment? Donc, encore une fois, on se dit, c'est peut-être le Hezbollah qui va, lui, être à la charge pour venger son, on va dire, pas son maître, mais son allié indescriptible qui est l'Iran, quoi.
Bon, là, une note plus personnelle. Être journaliste terrain au Liban, comment on entre en contact avec des gens du Hezbollah? Quelle sorte d'attitude ils ont avec toi? Ça se passe comment?
C'est très difficile. C'est un mouvement, je vais dire, entre guillemets, qui est très paranoïaque. Puis on peut les comprendre parce qu'à cause de ces frappes, moi, dans le village, je suis allé entre autres dans un village qui est tenu par le Hezbollah. J'ai été reçu là. Ils m'ont tout montré, etc. et tout, mais sauf leur truc militaire, évidemment. Quelques jours plus tôt, il y avait un drone israélien qui avait abattu un haut gradé du Hezbollah dans ce même village. Il y a des frappes tous les jours. Évidemment, ils se méfient des espions. Quand vous êtes journaliste, en plus, vous faites vos photos. Des fois, ça peut mal se passer. Donc, il a fallu prendre des autorisations à l'avance. Et pour aller au sud Liban, il faut demander à la fois, faut avoir l'autorisation du ministère de la Communication du Liban pour avoir une accréditation, l'armée, les services de renseignement libanais, mais aussi le Hezbollah. C'est-à-dire que beaucoup de Libanais disent, ceux qui sont opposés au Hezbollah, disent c'est un État dans l'État. Et c'est vrai que dans le sud Liban, ils sont chez eux. C'est un fief à majorité chiite, donc c'est leur branche. Donc ils contrôlent tout. Il y a personne qui peut rentrer là, sortir une minute, faire une photo sans être immédiatement interrogé, entouré. On veut savoir ce que vous voulez. Mais grosso modo, ils ont joué le jeu. Mais c'est dès qu'il fallait prendre des photos que ça se gâtait. C'est-à-dire qu'il fallait prendre aucun homme en photo, même de dos. J'arrivais à un endroit pour faire des photos, une belle place de village. Les gars du Hezbollah arrivaient de demander à tout le monde de partir. C'est très, très contrôlé. Mais en même temps, j'ai pu les rencontrer. J'ai rencontré aussi un ancien député à eux, qui est membre donc, du bureau politique du Hezbollah, qui a fait ses études en France, qui a passé son doctorat en France, qui connaît très bien l'histoire, qui est très, très habile, puis qui, lui, il est là
pour... Il passe son message.
Et lui, il me disait, mais nous, on nous traite de terroristes, entre autres au Canada. Le groupe est considéré comme terroriste au Canada. Mais il dit, on est toujours le terroriste de quelqu'un. Et puis, il me citait Jean Moulin, le résistant français contre les Allemands, il me citait Lafayette, il me citait Mandela, etc. Puis il disait, tout dépend toujours de quel côté on se place. Puis si le terroriste s'est tué des civils, ben, je suis désolé, Israël tue des civils, donc sont des terroristes. Leur discours est bien rodé, mais en même temps, eux, c'est ça, ils se positionnent comme résistants. Ils disent que l'armée libanaise n'a pas la capacité de défendre le territoire libanais. Donc c'est pour ça qu'ils ont gardé leurs armes. C'est la seule milice qui a gardé ses armes à la fin de la guerre civile des années 90. Et ils sont le rempart contre Israël. Ils se positionnent comme ça.
Parle-moi des enfants. Parle-moi de la vie au quotidien. Ça se passe comment avec ces roquettes qui se promènent? Puis toi, tu te déplaces dans un véhicule, tu pourrais être ciblé également.
Oui. J'aurais pu, oui, à un moment donné. D'ailleurs, petite anecdote, il y a quelqu'un du Hezbollah qui dit, on va prendre ma voiture pour aller voir quelque chose. Et après, avec ma fixeur, donc la journaliste libanaise qui m'accompagnait, je me suis dit, ah, mon Dieu, je sais pas c'était qui ce gars-là. Tu vois, c'est bon, en tout cas. Mais oui, encore des familles qui sont là. Il y a des enfants qui sont là. Puis à un moment donné, j'en ai croisé. J'en parle dans l'actualité, d'ailleurs. Et il avait un fusil jouet en plastique, un fusil d'assaut. Et je le prends en photo comme ça, puis il dit quelque chose. Je demande à ma fixeur qu'est-ce qu'il dit. Il dit « Je veux tuer des Israéliens et les piétiner après ».
Un enfant qui a dit ça?
Un enfant, mais on comprend. Ils vivent dans cette atmosphère-là. Ça fait des années. Israël a envahi le Liban, le sud Liban, à plusieurs reprises. Pour beaucoup de gens, c'est comme à Gaza. Nous, on regarde souvent ça avec nos yeux à nous. Nos enfants sont pas éduqués comme ça. Mais on peut pas savoir ce qui se passerait si on vivait dans une atmosphère de guerre permanente. Et peu importe qui est responsable de cette guerre-là, quoi.
Merci Fabrice, et les gens pourront lire tous les détails dans l'actualité.
Ouais, sur le site web ou dans le magazine avec quelqu'un de très connu en couverture.
C'est ça. Merci, c'était notre collègue Fabrice de Pierrebeau. Bon, le vieux pont Champlain est complètement démantelé depuis novembre dernier. Alors on va faire le bilan un peu. Est-ce qu'on a été plus rapide? Est-ce que ça a coûté plus cher? Sandra Martel est avec nous. C'est la première dirigeante de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain. Madame Martel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan. Merci de me recevoir.
Fait plaisir. Est-ce qu'on a respecté l'échéancier d'abord?
On a été en avance sur l'échéancier. Donc, on a fini 2 mois avant la date qui était prévue en janvier 2024. On a terminé là, fin novembre les travaux.
Pourquoi ça a été plus vite? Comment on explique ça?
Bien, par la planification des travaux, la réalisation en cours de route, on a 3 facteurs clés de succès avec la démarche qu'on a entreprise. On a beaucoup planifié. On a mis beaucoup de temps à préparer ce contrat-là, à préparer les dessins de vie, préparer moins les dessins parce que c'était vraiment un contrat de design-build, mais de préparer les clauses, de savoir exactement ce qu'on voulait. Fait que la préparation a pris un grand moment. Ensuite, c'est la collaboration. La collaboration entre les équipes est essentielle. Fait que tout le long du projet, il y avait une communication constante entre l'entrepreneur, notre consultant qui fait la gestion du contrat, et nous, l'équipe de PJCCI. Donc, quand il y avait un enjeu, les enjeux étaient réglés au fur et à mesure que le chantier avançait. Donc, il n'y avait pas de place pour perdre trop de temps en cours de route. Le chantier était bien connu. On n'était pas en voie de circulation. Il n'y avait pas de circulation associée, sauf quelques moments clés. Mais donc, et la communication aussi avec toutes nos parties prenantes. Donc, on s'assurait d'informer autant les élus que la population. On a eu 5 rencontres préalables. On a eu des rencontres en cours de route, 23 infolettes. Donc, vraiment, on était outillés pour outiller les gens. Donc, la communication publique, à l'intérieur même du projet, toutes les personnes se parlaient. Mmh. Et bien sûr, on avait préparé, vraiment mis beaucoup d'emphase sur la préparation du projet.
Ça a coûté combien démolir le pont Champlain?
Ça a coûté 225,7 millions. de dollars, ce qu'on avait annoncé au départ. Donc, on est sur le budget qu'on avait annoncé. Puis si vous vous souvenez, on avait 225,7 milliards puis on, millions et on avait dit il y avait les frais COVID là, qui étaient l'inconnu. Qu'on avait décidé là, de gérer avec l'entrepreneur, c'est-à-dire payer sur facture, puis on avait accordé un certain montant pour le délai d'échéancier. Donc, c'est 8,9 millions qui ont été associés là, de plus.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire?
Je me prononcerai pas au niveau de l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, il a planifié bien toutes ses méthodes et tout ça, et lui pourra en parler éventuellement. Nous, d'un point de vue d'honneur d'ouvrage, le plus compliqué, c'est vraiment la gestion des matériaux. Vous savez, on avait 264 000 tonnes de matériaux. On a mis beaucoup d'emphase au départ pour dire on veut pas que ces matériaux-là sortent du pays, s'en aillent un peu partout au monde. On a créé un rayon de 150 km où est-ce que l'entrepreneur pouvait disposer ses matériaux. Donc, on a tracé 100 % des matériaux pour s'assurer là, qu'ils restent dans un rayon. Et on a fait des concours. On a fait un concours pour la réutilisation. On a voulu aussi, s'il y a des partenaires qui avaient besoin de certaines pièces, les utiliser. Donc, tout ça, c'est des ententes, c'est de l'entreposage.
Mais ils sont où, les morceaux du pont Champlain?
Il y en a, des morceaux du pont Champlain qui sont prêts à Bonaventure. Là. Il y a des poutres qui sont là. On a aussi loué des terrains hors site parce qu'à un moment donné, la mobilisation des entrepreneurs plus les matériaux, ça prend trop de place. Donc, on a aussi différents sites qu'on a loués pour entreposer en attendant leur utilisation.
Bon, je sais qu'il y a eu des souvenirs, entre guillemets, que des gens ont pu aller chercher. J'imagine qu'on a dû garder des pièces un peu là, comme style musée. Là,
si oui. Oui, bien, on a gardé des pièces pour réutiliser si jamais on a des projets. Là, on planifie éventuellement peut-être une piste cyclable, donc qui pourrait être faite sur des anciens morceaux. Mais aussi, dans le prochain projet Bonaventure, là, on veut mettre des éléments du pont Champlain là, à titre historique. Puis, il y a des piles qu'on a conservées. Qui vont être là en permanence. Là. Si vous regardez, vous me dites le pont n'est pas totalement déconstruit, mais on a choisi de garder certaines piles pour le projet Héritage Champlain qui s'en vient.
C'est quoi ça, le projet Héritage Champlain?
Héritage Champlain, c'est vraiment d'aménager. Le pont, une fois enlevé, bien, il reste des sites. Donc, plutôt que de laisser ça juste comme ça, on a décidé de les aménager avec de la verdure, recréer un habitat. L'environnement a été un élément clé de notre projet développement durable aussi. Donc, on va aménager ces sites-là. La population va pouvoir les réutiliser. Puis, il y aura des pièces et il y aura même une histoire un peu qui va être racontée là, à travers ces sites-là. Fait qu'Héritage Champlain, c'est la mise en valeur des trois sites à l'île des Sœurs, avec un belvédère qui va s'étirer au-dessus du fleuve, à la digue de la Voie-Maritime et à Brossard, on a des sites.
Parlons des ponts qui fonctionnent, là, qui sont utilisés par les automobilistes. Par exemple, pour les prochains mois, pour le nouveau pont Champlain, est-ce qu'il y a des enjeux de travaux, d'entretien qui pourraient affecter les gens?
Mais le nouveau pont Champlain, il n'est pas sous notre juridiction. C'est Infrastructure Canada qui est le propriétaire ou le représentant donneur d'ouvrage. Et c'est SSL là, qui est signature sur le Saint-Laurent qui est le gestionnaire là, du pont. Donc, je pourrais pas répondre
à votre Jacques question.
Jacques Cartier, c'est on va les travaux qui s'en viennent sont en dehors des voies de circulation. Vous savez que le tunnel Louis-Polyte-Lafontaine a des travaux, donc c'était prévu dans nos échéanciers depuis longtemps qu'on avait une période où est-ce qu'il n'y aurait pas d'entrave à la circulation sur le pont Jacques-Cartier en même temps qu'au tunnel. Donc, mais il y a le trottoir qui va être fermé pendant cet été parce qu'on fait des travaux sur l'acier qui sont au niveau là, du tablier.
Ça veut dire pas de vélo?
Oui, il y a un trottoir et il y a une piste multifonctionnelle.
OK, mais ça va être...
La piste multifonctionnelle va être
ouverte. C'est le trottoir qui est fermé seulement.
C'est juste le trottoir qui est fermé entre du côté Montréal, entre Montréal et le pavillon de l'île Sainte-Hélène. Fait qu'il y a une partie du trottoir qui est ouverte.
Merci d'être venu ce matin.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Sandra Martel est la première dirigeante de la Société des ponts Jacques-Cartier-Champlain.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.